Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Madame Catherine Rath. Bonjour.
Bonjour.
Et François Goller. Bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes avec Jan Hansen, co-présidente de l'association RADAR, donc le réseau d'IWA pour l'accueil des réfugiés. Et vous êtes ici pour nous annoncer trois dates, celle de cette assemblée générale du 30 mai. On peut indiquer le lieu déjà
Oui, le lieu est à Abiter, au 1120 Chemin des Combes, et c'est à 10h45, le samedi 30 mai.
Et ensuite, il y aura cette réunion publique afin de solliciter celui-ci sur vos perspectives. Ça sera le vendredi 12 juin, toujours à Abiter ou ça sera...
Non, cette fois-ci, ça sera à la salle communautaire de l'ESCDD. Place de l'Évêché, et c'est plutôt en fin d'après-midi, début de soirée, 18h30, hein, donc venez nombreux, pas de soucis, on vous présentera un projet dont on va parler tout de suite.
Et vous êtes également avec nous pour nous parler d'une information, c'est celle de ce nouvel accueil d'une famille de Syrie qui va prochainement avoir lieu. Et donc, vous nous expliquerez un peu tout ce travail pour l'accueillir. Et on pourrait peut-être aussi antérieurement parler de celle que vous avez déjà reçue et de nous donner peut-être un peu le bilan de cet accueil.
Alors effectivement, donc depuis le RADAR, pour mémoire, c'est depuis 2015 qu'il accueille sur 10 des familles de réfugiés, donc avec papier, voilà. Et nous avons eu jusqu'à 22 personnes dernièrement, donc soit 4 familles qui ont été accueillies avec des bénévoles de l'association et des références qu'on appelle qui suivent de près les familles. Voilà, donc là, je vais laisser Catherine parler parce que effectivement. Nous avons eu des changements depuis cette année et d'où une nouvelle décision que nous avons prise en conseil d'administration dernièrement.
Oui, effectivement, nous avions une famille irakienne venue donc d'Irak, de Chimal, et qui était là depuis 2019, fin 2019, septembre 2019, mais qui était arrivée en France en décembre 2018, que nous avons accueillie pendant 6 ans et demi, qui était une famille de 9 enfants. Que nous avons suivi tout au long de ces années et qui a eu le souhait de se rapprocher de leur communauté yézidi qui est plutôt à l'est de la France et en Allemagne et qui est partie il y a maintenant un mois et demi à côté de Strasbourg dans un petit village et qui est partie avec 6 enfants. 3 de leurs enfants sont restés par ici, qui commençaient déjà à mener leur vie d'adulte et qui ont préféré faire le choix de rester par ici. Sinon, toute la famille est partie par là-bas pour essayer de s'acclimater et puis de recommencer une vie là-bas.
En plus du départ de cette famille, il y a une autre famille dont on s'occupe qui a, elle, à moyen terme aussi, le souhait de partir, puisque voilà, ils ont gagné leur autonomie et nous, on en est contents. Et donc, si cette famille-là part d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans, on se retrouvera ici à Die, au niveau du RADAR, avec beaucoup moins d'accompagnement, d'où cette décision qui a été prise et aussi le constat qu'on a fait, que je pense que tout le monde, enfin beaucoup de gens partagent, la difficulté actuellement des réfugiés syriens au Liban, hein, puisque les réfugiés syriens dont qu'on va accueillir viennent de là-bas. Le Liban, c'est difficile, très difficile. L'aide internationale se tarit. La vie dans les camps devient difficile. Donc le CA s'est dit, on doit pouvoir quand même, a dit, encore faire quelque chose pour pouvoir accueillir une nouvelle famille. Ça a été aussi voilà, un élément déclencheur de la décision. Alors, c'est un projet, on va en parler un peu plus dans le détail. Il n'est pas encore vraiment engagé, mais on a le souhait vraiment d'y aller cette année en 2026.
Je reviens un peu sur ces familles qui sont déjà passées chez vous. Vous parliez de celles d'Irak dont une partie est allée s'installer dans l'est de la France. Trois personnes sont restées ici. Est-ce qu'il y a toujours ce contact avec le Redar? Et de là même, est-ce qu'ils apportent leur contribution aussi pour peut-être soutenir les futurs accueils de familles?
Oui, on est toujours en contact avec ces jeunes, particulièrement moi, puisque j'ai été référente de cette famille et j'ai suivi aussi les jeunes. Donc il y a un jeune qui est déjà père de famille, qui a commencé à fonder sa famille et qui a un travail aussi dans le Diwa, puisqu'il travaille à Châtillon en Diwa, il travaille à l'Herbier. Et il y a aussi un autre jeune ici qui travaille dans une pizzeria sur Die. Je ne sais pas si pour l'instant ils ont l'envie de nous aider à participer à l'accueil d'une nouvelle famille, mais pourquoi pas, on peut aussi leur demander. Et l'autre jeune est aussi installé, lui, en tant qu'entrepreneur à son compte, dans le bâtiment, sur Valence. Il a sa petite entreprise aussi. Donc ce sont des jeunes qui quand même démarrent dans la vie et qui ont envie de rester en France et de s'installer durablement, même dans le Diwa.
Je reviens un peu sur votre structure telle que la vôtre. Est-ce qu'il y en a aussi ailleurs en France et notamment à l'est de la France pour ce déménagement de cette famille? Est-ce qu'il y a en quelque sorte une continuité de soutien?
Alors, on est en relation avec d'autres collectifs à travers la Fédération d'entraide protestante qui fédère tous ces collectifs. Dans l'Est, justement, on a été assez étonnés. Dans l'Est de la France, il y a des communautés yézidis, donc des gens, des communautés, mais pas de collectif français, avec des Français, des Françaises qui accompagnent. Donc c'est un étonnement. Donc ils se débrouillent plutôt, du coup, dans la communauté, mais pas avec un collectif à l'appui. Voilà, ça dépend des régions en France. On a la chance, dans la vallée de la Drôme jusqu'en Ardèche, d'avoir plusieurs collectifs. Et on est un des départements, on peut en être fier, un peu en...
Il y a aussi cette nouvelle famille dont vous avez envisagé l'accueil. Qu'en est-il à l'heure actuelle de ce processus?
Donc c'est un début de projet, on démarre juste. La réunion publique va lancer vraiment pour tout le monde ce projet. C'est un dispositif qu'on appelle les couloirs humanitaires par lequel on va passer, qui donc travaille avec le gouvernement et l'État français pour garantir un dispositif sécurisé d'accueil. Donc il y a des gens qui travaillent là-bas sur le terrain, qui avec nous, donc on va se mettre d'accord sur une famille, sur la composition d'une famille, parce que voilà, 2, 3, 4 enfants, on va voir comment les choses se passent. Mais l'élément déclencheur pour tout ça, c'est le logement. Il nous faut absolument, avant de démarrer avec les couloirs humanitaires, avoir un logement sur dit, digne, décent, pour pouvoir accueillir cette famille, on va dire, entre 4 et 6 personnes. Voilà. Donc,
Et ça, c'était la condition d'accueil pour les précédentes familles. Ces logements qu'elles avaient ne sont pas automatiquement renouvelés. Vous devez vous retrouver à chercher de nouveau un habitat.
Oui, malheureusement, parce que là, quelques familles sont logées par les logements sociaux, mais on ne peut pas garder le logement en attendant d'accueillir la famille. Donc, et en plus, quand la famille arrive, elle n'a pas encore ses papiers pour la CAF, pour l'APL et pour le logement. Du coup, la CAF ne les accueille pas pour l'instant dans des logements sociaux. Donc on doit attendre un minimum 9 mois, un an et demi avant de pouvoir bénéficier de ces logements. Du coup, nous sollicitons plutôt le parc privé pour pouvoir avoir un logement au moins la première année.
Dans ce processus, quelles sont les démarches au niveau de l'administration, par exemple?
Alors justement, c'est pour ça qu'on se fait appuyer par une association nationale, la Fédération d'entraide protestante, et le dispositif couloir humanitaire, qui est un contrat entre l'association d'entraide protestante et le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères pour... un contrat de 300 personnes à accueillir sur 2 ans. Et donc, dans ce cas-là, le ministère regarde tous les dossiers qui arrivent des couloirs humanitaires et valide. Et ensuite, La condition, c'est de trouver une structure locale, donc le RADAR, par exemple, pour ici, qui va s'engager pendant un an et demi, deux ans, plutôt deux ans, pour pouvoir faire toutes les premières démarches et rendre la famille le plus autonome possible dans les deux premières années, quoi.
Cette situation du Diwa, est-ce que se répète aussi dans d'autres secteurs de la Drôme ?
Oui, sur Cray aussi, ils sont très actifs. Et dans le sud de la Drôme aussi, vers Buhl et Baronnies. Mais surtout sur Cray aussi, ils accueillent énormément de familles aussi. Autant des Irakiens comme nous, des familles yézidis, mais aussi des familles syriennes. On est assez en lien avec eux et on partage aussi des éléments dont on a besoin pour pouvoir nous s'aider mutuellement.
Les conflits du Proche et Moyen-Orient sont bouleversants, apportent la confusion. Est-ce que vous sentez aussi un peu cette tension dans les demandes ?
On le sent parce qu'on est touché déjà soi-même, parce qu'on voit ce qui se passe dans ces pays. On a, nous, des relations avec des contacts sur place au niveau des camps au Liban. Et justement, la réunion publique, on va essayer de faire une petite capsule vidéo avec un de ces contacts-là, là-bas, qui va nous expliquer un petit peu quelles sont les conditions difficiles, vraiment très complexes, de ces familles, de ces gens qui vivent là-bas, qui vivent la double peine, puisqu'ils sont déjà réfugiés de leur pays, et en plus maintenant dans un pays qui est en guerre, puisque, voilà, comme tout le monde sait, Israël bombarde quand même régulièrement le Liban, et du coup, entre les Libanais et les Syriens, la situation s'est un petit peu tendue aussi, voilà, parce que ça fait beaucoup de monde, avec peu de ressources, et donc, effectivement, on sent que c'est quand même très difficile.
Comment s'opère votre action sur les territoires, notamment au Liban, ou cette prise de contact avec ces familles
Toujours pareil, avec le dispositif des couloirs humanitaires, avec donc un contact à Valence qu'on a, qui est la personne qui va suivre le dossier de la famille qu'on accueillera, et aussi qui a, elle, un contact direct dans les camps au Liban, là-bas, sur place, et qui prépare le dossier de la famille avec laquelle on pourra effectivement faire l'accueil.
Par l'expérience, vous disiez que ça prend à peu près un an pour ne serait-ce que trouver un logement au minimum. Et quels sont les autres apports qu'amène en plus le RADAR auprès de ces familles, en plus du logement ?
Le RADAR, déjà administrativement aussi, même avec l'aide du couloir humanitaire, il faut quand même aller aussi à l'OFI pour pouvoir commencer les papiers, pour pouvoir avoir son visa et le titre de séjour assez rapidement. C'est ça qui déclenche après les aides de la CAF et toutes les aides qui suivent. Et puis, après, il y a l'apprentissage de la langue. Parce que dans les camps, très rarement, ils apprennent le français. Donc, quand ils arrivent, ils parlent leur langue, mais ne parlent pas du tout le français. Donc, on a besoin d'aide et de soutien aussi pour apprendre l'apprentissage de la langue. Et à l'école aussi, nous aidons les enfants qui vont à l'école pour pouvoir faire l'accompagnement scolaire et aider les enfants aussi dans l'apprentissage de la langue, qui est plus facile pour les enfants, ça c'est sûr, mais pour les parents, c'est très très important.
Certaines populations d'Irak ou de Syrie ont-elles suivi aussi un cursus scolaire qui leur permette, ou alors justement ce sont des personnes vraiment illettrées, donc il y a une double éducation, celle d'acquérir aussi le moyen de s'exprimer, en plus de la langue.
Oui, on est tombé, enfin on a pas mal de familles qui sont analphabètes quand elles arrivent, les adultes. Pas tous, mais certains sont analphabètes, donc il faut aussi découvrir l'écriture, la lecture, et dans une langue qui est différente de la leur. Du coup, c'est très compliqué pour des adultes qui ont entre 30 et 50 ans, donc c'est compliqué.
Justement, j'en viens à cette possible contribution des familles accueillies antérieurement. Est-ce qu'elles peuvent aussi amener leur soutien et leur aide pour acquérir cette langue ?
Alors, pour acquérir le français, c'est compliqué. Par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces familles-là nous apportent autre chose. On apprend à leur culture. Ça rend humble, parce que souvent, on a une petite attitude, nous, français, à vouloir dire qu'on sait ce qui est bon pour eux. Et on s'aperçoit qu'en définitive, ils ont à nous apprendre aussi de leur façon de voir la vie, de voir la façon de prendre les problèmes qu'ils rencontrent. Et donc, je dirais, cet échange nous apprend Alors sur la langue, je pense qu'effectivement, c'est un des très très gros travaux sur lesquels on n'a pas résolu tous les problèmes. On a travaillé avec la BC de l'espace social, on a travaillé avec la TRAM aussi, hein, qui a une formatrice dernièrement sur le FLE, hein, français langue étrangère. Mais sourdi, le problème c'est que la communauté étrangère n'est pas si nombreuse que ça, donc c'est difficile d'avoir des moyens de professionnels pour pouvoir vraiment mettre en place un suivi d'apprentissage linguistique. Voilà.
L'équipe du Radar, c'est combien de personnes qui agissent d'ordinaire dans cette organisation ?
C'est un CA de 14-15 personnes, très actifs. On se voit à peu près 7 à 8 fois par an. Donc voilà, collégial, on décide, on partage et on avance ensemble. Et puis autour, un collectif de, on va dire, 40 personnes à peu près, de sympathisants à différents niveaux d'engagement pour des actions ponctuelles ou d'autres qui vont être, comme disait Catherine, référent scolaire pour un enfant. Vont faire le soutien scolaire ou référence suivi de la santé. C'est un volet aussi qui peut être important. Ils peuvent arriver dans des conditions sanitaires parfois un peu complexes, donc au niveau des dents, des oreilles, toutes ces choses-là, ou même diabète et autres. Donc donc c'est très très bien et on refusera jamais d'avoir de nouvelles personnes qui nous rejoignent parce qu'il y a toujours quelque chose à faire auprès de ces familles. Ça peut être une sortie, une balade le dimanche autour du Glandas ou ailleurs, ou faire un atelier cuisine ou d'autres choses, des jeux, des choses comme ça. Il y a pas de, c'est sans limite les idées.
En somme, vous avez un rapport quotidien avec ces familles.
Presque, oui.
Oui. Ça permet de remédier aux petits tracas quotidiens aussi. J'imagine les achats, parce que parfois ces familles n'ont pas de véhicule. Donc il y a aussi ce soutien logistique également. En général, justement, les logements sont plutôt situés dans des bourgs, dans des centres de village plutôt qu'en campagne.
Oui, c'est quand même plus pratique. La première famille que nous avons reçue en 2016 était sur Luc en Diwa, mais là, ça a été compliqué. Et pour eux et pour nous, pour se déplacer à chaque fois pour que les bénévoles aillent sur Luc et que pour eux aussi venir au moins sur Di pour pouvoir faire leurs courses et continuer et aller aussi soit à l'école, enfin à l'école sur Luc, ça allait, mais sinon c'était compliqué quand même. Et je pense que sur Di, quand même, c'est... Pour les familles, c'est bien. C'est pas une grande ville. Pour le démarrer après tout ce qu'ils ont vécu dans les camps, je pense que c'est quand même une ville qui est quand même à la mesure, à l'échelle de leurs besoins.
Le 30 mai aura lieu l'Assemblée Générale. Ça permettra peut-être d'établir les perspectives de l'année qui suivra.
Oui, tout à fait. C'est le coup de départ de ce projet, puisqu'on va on va faire voter un rapport d'orientation qui présentera les grandes lignes du projet dont on parle. Et puis, après le déroulé classique d'une assemblée générale. Mais effectivement, tu as raison, Yves, c'est le coup de départ et qui sera suivi, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, par la réunion publique deux semaines après, où là, on présentera plus en détail, comme on fait un petit peu aujourd'hui, le besoin. Parce que derrière, il y a des besoins. On a parlé du logement. Il faut qu'on assume financièrement les deux premières années, puisqu'ils ont rarement des revenus autonomes. Travail, c'est pas encore. Donc le temps d'avoir soit les APL, soit les aides pour réfugiés, ça demande du temps. Donc il y aura aussi appel à dons, générosité. Donc logement, des dons et puis des bénévoles parce que toutes les énergies seront les bienvenues pour aider à accueillir cette nouvelle famille. Parce que c'est ce qu'on souhaite aussi, c'est que ce soit quelque chose de partagé au niveau de la ville, que ce soit quelque chose que les personnes se sentent accueillies au niveau de la ville quand elles se promèneront au marché ou faire leurs courses ou ailleurs. Quoi.
Ces appels aux dons sont toujours de rigueur ?
On le fait régulièrement quand on a besoin justement d'un soutien pour les familles. Et ça marche.
Et vous avez un site où, pour l'instant, non, pas encore, hein, mais ça viendra prochainement, j'imagine.
Si, alors on a un site internet où on peut faire des dons via le portail Helloasso. Hein, mais à partir du site du Radar, c'est tout à fait possible.
Il y a un lien.
Voilà, il y a un lien, tout à fait, hein, à partir. Il y a le projet qui est expliqué, il y a toute notre démarche aussi qui est expliquée. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site. Hein, il est tout neuf de l'année dernière, donc voilà, il est assez moderne. On en est content. Et donc, pour les dons, effectivement, on a un début de trésorerie, enfin une trésorerie qui nous permet de démarrer, mais on n'aura pas là suffisamment pour pouvoir tenir 2 ans. Donc il faudra faire appel à la générosité collective. Et ça, comme dit Catherine, ça a toujours bien marché à chaque fois qu'il y a eu cet appel sourdi.
Les frais qu'entraîne cet accueil, est-ce que vous les avez chiffrés par rapport à votre expérience ?
Oui, on les a chiffrés par rapport.
Et donc, sur un mois, combien coûte justement cet accueil ?
Sur un mois, je ne vais pas pouvoir le dire, mais disons que pour une année, on a besoin de 15 000 euros, quelque chose comme ça, je crois.
C'est ça. Oui. On a, dans le projet qu'on a, c'est 13 000 euros, mais ça peut aller effectivement à 15 000 ou un petit peu en dessous. Le premier poste, c'est le loyer qu'on doit payer, parce que sauf miracle qu'on aurait un propriétaire privé qui nous offrirait un logement gracieusement, mais bon, voilà, on sait que souvent... On a des loyers à prix modéré, et ça c'est déjà bien d'avoir un propriétaire qui joue ce jeu-là, mais ça fait quand même 6-7 000 euros par an. Et puis ensuite, il y a d'autres charges, hein, comme tout l'équipement, le transport, tous les frais pour démarrer dans la vie, puisqu'ils arrivent en général avec leur valise, pas d'argent, et il faut démarrer dans la vie.
Justement, pour démarrer dans la vie, certains sont à la recherche d'emploi, arrivant à leur majorité, ou même pour les parents. Comment se passe votre soutien à ces démarches ?
On va au rendez-vous avec eux au début. On les accompagne dans leur rendez-vous. On les accompagne aussi dans le fait de faire un CV, de montrer comment on se présente aussi à un patron. Et puis maintenant, on est quand même en partenariat aussi avec France Service, la mission locale, qui nous aide bien et qui aide les jeunes aussi dans leur démarche quand ils commencent à parler le français. Parce que c'est vrai que la barrière de la langue est compliquée pour France Service et la mission locale aussi. Mais quand les jeunes commencent à parler, la famille qui est partie justement en Alsace, là maintenant, se débrouille pour aller en mission locale ou à France Service s'il y a des besoins et pour faire des démarches administratives.
Parfois, certains adultes ont une compétence professionnelle. Est-ce que vous essayez aussi de les caser justement dans leur secteur ?
C'est difficile. C'est souvent des gens qui viennent, pour l'instant, d'un milieu social, je dirais, de petits villages agricoles. Donc, qui n'ont pas fait de grandes études. Et donc, plus la barrière de la langue, c'est très difficile pour eux d'avoir des métiers qualifiés ou qualifiants, je ne sais pas comment on dit. Et donc, donc du coup, par exemple, on a un papa qui travaille à l'herbier du Diois, qui est sur les machines de l'herbier du Diois. Donc, on en a d'autres qui travaillent...
À Marignac,
oui, qui travaillent au Genêt, à la résidence senior des Genêts. Voilà, donc on essaye comme ça de trouver, et puis pas loin, parce qu'il y a le problème de la voiture, du transport. Certaines familles ont réussi à avoir, le papa et la maman ont réussi à avoir le permis. D'autres, c'était trop compliqué ou n'ont pas eu l'énergie pour le faire. Donc il faut tenir compte de ça aussi. Hein. On ne peut pas forcer, nous, référents, on est à l'écoute. Mais on ne peut pas faire à la place et on ne peut pas prendre la décision à leur place. On peut leur proposer. Donc voilà, il faut s'adapter à tout ça. Un métier, on ne peut pas leur dire, si tu veux gagner ta vie, ça va être ça. Hein, donc il faut leur présenter, les accompagner, leur dire que ça peut être intéressant. C'est toute une démarche assez subtile.
Quand ces familles sont accueillies, est-ce que vous prenez en compte aussi leurs souhaits ? Est-ce qu'ils sont exprimés et est-ce que vous essayez d'y répondre ?
Ah oui, on les écoute. Mais...
Et quels sont leurs souhaits en général ?
Trouver un travail.
Oui.
Trouver un travail. Quand les parents arrivent, ils veulent trouver un travail. Après, pour eux, ils s'aperçoivent que la barrière de la langue les rebute un petit peu. Du coup, on apprend aussi le français. Mais c'est vrai que les parents ont très envie de travailler.
Est-ce qu'il y a des organismes d'État qui sont à vous soutenir aussi dans ce travail de transition pour ces personnes ?
Comme disait Catherine, on a les structures comme France Service, Mission Locale, oui. la NPE, qui sont... puisque un réfugié est considéré comme étant français, donc a les droits, mêmes droits que les Français. Et donc, à partir de ce moment-là, il peut utiliser tous les services publics qu'on utilise, nous. Mais sinon, des structures dédiées pour les réfugiés, non. On s'entraide entre associations, on essaye de trouver des bénévoles, un interprète par-ci, une psychologue dédiée un peu au traumatisme lié à l'exil. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'accompagnement, de structure d'accompagnement organisée.
Depuis le début de la création du RADAR, donc déposée en 2016, est-ce que vous avez vu aussi une facilité s'accroître ou plutôt l'inverse, les difficultés s'accroître pour soutenir ces familles au niveau administratif ?
Au niveau administratif, on parlait de la préfecture, on a des renouvellements de cartes de séjour, on a des demandes de sortie de territoire, c'est des papiers un peu particuliers pour les réfugiés. On s'est aperçu depuis quelques années, 2-3 ans, là, que ça s'est complexifié, que vraiment les démarches, le portail numérique n'est pas du tout adapté pour des étrangers. Il est buggé, il bloque, on a des refus. Et ces refus font que certaines des personnes qu'on accompagne peuvent être dans l'illégalité alors qu'elles sont tout à fait légales en France. Et donc ça nous met un peu en colère parce qu'on trouve qu'effectivement... L'État, donc le ministère de l'Intérieur, hein, puisque c'est lui qui porte cette démarche-là, pourrait faire plus d'efforts pour pouvoir fluidifier les démarches administratives des réfugiés.
Je crois qu'il y a eu un rappel à l'ordre du Conseil d'État pour cette mauvaise gestion par le ministère de l'Intérieur. On espère que ça va y remédier. Et puis, il y aura cette assemblée, cette réunion publique du 12 juin. C'est pour vous exposer ces demandes, ces nécessités pour l'accueil de ces familles. Est-ce que vous avez déjà quelques idées à énoncer maintenant sur ce qui sera dit pour ce 12 juin ?
On a fait un petit ordre du jour pour cette réunion. Hein, donc on l'a essayé la plus conviviale et fluide possible. Donc il y aura un petit documentaire de 20 minutes qui présente justement le dispositif des couloirs humanitaires donc a été fait par l'association nationale là, en partant des camps au Liban jusqu'à l'accueil de la famille dans une structure en France, une structure comme la nôtre, comme le RADAR. Il y aura la représentante effectivement de Valence qui sera là aussi pour pouvoir répondre à des questions éventuelles. Nous, RADAR, on présentera le projet parce qu'on a une commission à venir qui s'est créée, qui a porté ce projet, donc qui présentera vraiment les différentes étapes de ce projet. Et puis, on répondra aux questions, on exprimera nos besoins et nos attentes. Hein, que je rappelle encore une fois, le logement, les dons et puis les référents et bénévoles. Hein, donc, toute bonne volonté seront les bienvenus. Voilà.
Une petite chose, nous sommes dans un territoire plutôt rural. Est-ce qu'il y a aussi, pour ces familles, la possibilité de cultiver son jardin ? Il y a aussi ce soutien-là aussi pour se subvenir.
Oui, ça c'est une grande demande à chaque fois qu'ils arrivent. Et ici sur Die, on est quand même, on a la chance de pouvoir avoir des petits coins de jardin à l'Aube, au Perrier ou ailleurs. Et les familles sont très très contentes quand ils n'ont pas de terrain attenant au logement de pouvoir aller cultiver parce que ce sont quand même des agriculteurs dans leur pays.
Quel est le désir pour vous que vous auriez... Comme vous aimeriez voir ce 12 juin pour ce rendez-vous avec un public ?
Avoir un logement. C'est ce qui est arrivé quand même. C'est pour ça que quand même on a un petit espoir. La dernière réunion publique pour accueillir une famille syrienne, la première famille syrienne que l'on accueillait, on a eu la chance d'avoir une personne qui a dit « Moi, j'ai un logement et je l'offre aux réfugiés. » Donc, ils payaient juste l'électricité et l'eau, mais ils n'avaient pas de loyer. Et il les a hébergés pendant un an et demi en attendant d'avoir un logement social. Donc, pourquoi pas ? Donc, ça, c'est vraiment notre premier espoir, mais bon, s'il y a des personnes qui ont en vue aussi des logements et qui peuvent nous les louer, c'est aussi très très bien. Et puis on a besoin de bénévoles, comme disait François, on a vraiment besoin de bénévoles.
Voilà, j'y allais y venir, justement, c'est la troisième famille que vous allez accueillir. Donc par expérience, vous savez ce que ça mobilise en temps et en personne pour cet accueil. Et est-ce qu'il y a aussi cet appel à bénévoles pour vous rejoindre de nouveau pour ces nouvelles accueils?
Oui, c'est important parce que d'abord, ceux qui l'ont fait pour les familles précédentes peuvent rester en soutien et en appui, mais être au front, ils se disent, bon, ça serait bien si c'est de nouvelles personnes qui le fassent. Et donc, ça, c'est important. Et le fait d'être en collectif, c'est très important aussi parce qu'on a des périodes de doute un petit peu quand on accompagne des familles, hein, parce que c'est comme sa propre famille. Il y a des fois, on se pose des questions. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que j'ai la bonne attitude et autres? Le fait de faire à plusieurs, de se voir régulièrement, donc autour d'une famille, ce qui est bien, c'est qu'en général, on a un ou deux référents qui suivent vraiment toutes les problématiques de la famille. Et puis, 4, 5, si ça dépend de la composition, on a fait 4, 5 personnes qui, elles, vont s'occuper de points particuliers, soutien scolaire, le suivi santé, le suivi travail, les choses comme ça. Et ça fait une petite communauté autour de la famille. Et nous, l'association, on est, bien sûr, on encadre tout ça et on fait des temps de partage. On va essayer de mettre des temps d'analyse de la pratique aussi. On s'aperçoit que c'est important pour les bénévoles et référents de parler de ce qu'ils vivent auprès des familles parce que on est dans une relation dans l'humain, dans la relation humaine et il y a besoin de partager, de dire les émotions qu'on traverse.
Est-ce que vous tenez en quelque sorte un journal de bord de ce que vous opérez de manière peut-être aussi à transmettre un certain savoir-faire ou une expérience avec d'autres structures qui souhaiteraient opérer?
Pas vraiment, mais on a quand même, on a l'expérience.
Il y a une mémoire quand même.
Il y a une mémoire qui est là, et oui, oui.
Catherine Rat et François Gollère, je vous remercie tous deux d'être venus sur Air du Bois pour nous parler donc de votre assemblée générale du 30 mai. Ça se passera à Habitaire à partir de
10h45,
et ensuite une réunion publique le vendredi 12 juin à la salle communautaire de l'espace social et culturel du Diois. À quelle heure?
18h30.
Et puis aussi donc cette annonce de ce nouvel accueil d'une famille de Syrie.
C'est ça. Eh bien, merci.
Merci pour cette interview.
Et puis, vous avez un site internet. Hein. Il suffit de taper le Redar et on peut trouver facilement le réseau d'accueil.
C'est ça. www.réseauaccueildiois.fr.
Réseau d'Iois accueil.fr.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Bientôt.